time will come up when the winds will stop and the breeze will cease.
Cold beneath my skin and they're trembling with rage.
Oxford town,
I'll make you wild.
Everybody's got the head bowed down. Sun don't shine.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ces projets de recherche sur la dictée, l'oralité et les dispositifs d'enregistrement de la voix, le laboratoire sur les récits du soi mobile, affilié au département de littérature et de langue du monde de l'Université de Montréal, présente Bob Dylan, De l'enchantement à la cruauté, un balado en 6 épisodes. La semaine dernière, on a pu interroger l'œuvre de Dylan à partir du tout début de sa carrière, en observant le déploiement de sa persona de chanteur au cours des années 60, en faisant le portrait d'une figure ambiguë, un peu illocalisable, qui réitérait toujours son inconfort face aux titres qui lui étaient adressés, entre autres ceux de chanteur folk ou de créateur de chansons contestataires. Aujourd'hui, on poursuit notre rencontre avec Dylan, d'abord par un bond temporel important, en étudiant en profondeur l'une de ses chansons les plus récentes, Murder Most Foul, qui conserve pourtant un lien très fort avec les années 60, parce qu'en son centre se retrouve un événement marquant, l'assassinat de Kennedy, qui est lui-même contemporain de la naissance de la figure de Dylan comme musicien. À travers cette chanson, on va observer comment se déploie aujourd'hui cette tradition typique de Dylan de la longue chanson récitée. On va questionner quel constat il est fait face au mythe de l'américanité, tel qu'il les explore depuis le début de sa carrière. Mon nom est Thomas Filteau, aujourd'hui je suis accompagné de Simon Harel, professeur au département de littérature et de langue du monde, directeur du laboratoire sur les récits du soi mobile et initiateur de ce projet autour de Bob Dylan, avec qui on va se pencher en seconde partie d'émission sur le pan cruel de la voix de Dylan. Bonjour Simon.
Bonjour Thomas.
On accueille également dans nos studios Simon Laperrière, doctorant en études cinématographiques à l'Université de Montréal, fondateur du volet Caméra Lucida du Festival Fantasia, dont il a assuré la programmation jusqu'en 2016, également l'auteur de plusieurs essais et entre autres Series of Dreams, Bob Dylan et le cinéma, paru en 2018 aux éditions Rouge Profond. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation afin de discuter avec nous de Murder Most Foul, une des récentes chansons de Dylan. Pour débuter, voulez-vous nous présenter comment la chanson est apparue, comment elle vous est apparue pour la première fois?
Eh bien, j'habite une rue tranquille du quartier antique à Montréal, une rue sur laquelle il y a généralement très peu d'activités, même aux heures de pointe. Et contrairement à mes amis qui habitent des boulevards achalandés, j'étais pas dépaysé lors du premier confinement. Le calme ambiant n'avait rien d'inhabituel, mais il en était pas moins lourd de sens, parce qu'il me rappelait cette interruption soudaine de notre train-train quotidien, cette apocalypse peinarde déclenchée par le plus coriace des virus. Et la suite des choses étant à ce moment-là incertaine, on s'en souvient, on ne pouvait faire mieux que d'attendre. Attendre la fabrication d'un vaccin, attendre la réouverture des lieux publics, attendre un hypothétique retour à la normale, attendre tout en perdant espoir à la manière des protagonistes du visionnaire « Le temps du loup » de Michael Haneke. Et les semaines se ressemblaient au point de se confondre, nous plongeant collectivement dans un étouffant jour de la marmotte. Et il était difficile alors de ne pas passer au bilan par désir de mieux comprendre l'origine de notre calvaire. Et on était loin de se douter à ce moment-là que le plus pertinent des témoignages serait signé de la main du dernier barde du 20e siècle. Le matin du 27 mars 2020, ma conjointe m'informe au réveil qu'un enregistrement inédit de Bob Dylan a été partagé sur les réseaux sociaux. Et la pièce est accompagnée d'une courte présentation de son auteur. Il nous dit « Greetings to my fans and followers, with gratitude for all your support and loyalty across the years. » This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting. Stay safe, stay observant, and may God be with you. Et donc, d'emblée, le fan en moi était ravi d'avoir des nouvelles du chanteur. Bien qu'il ait une réputation d'ermite reclus, Dylan est en réalité un artiste fort productif, bon an, mal an. Il demeure une figure indétrônable de l'actualité culturelle grâce à l'exposition de ses toiles en musée, du lancement d'un nouveau whisky de sa marque Evans Door ou encore de la centaine de concerts qu'il donne annuellement. Il y avait seulement une pandémie mondiale qui pouvait mettre un terme au Never Ending Tour. Et comme plusieurs de ses admirateurs et de ses admiratrices, je me demandais, sans trop m'en faire évidemment, comment le vieux Zimmerman pouvait bien occuper son temps lors du confinement. Et je me souviens prendre place dans mon salon pour écouter cette nouvelle pièce. De ma fenêtre, une rue vide me servait encore une fois de décor. La durée de 15 minutes de l'enregistrement, au départ, ne m'a pas surpris. Parce que depuis l'album Time Out of Mind, Dylan a pris l'habitude de conclure ses disques avec une chanson fleuve qui s'étire sur plusieurs couplets. Ces longues ballades décrivent bien souvent les lamentations d'un narrateur fatigué, tantôt nostalgique, comme dans Sugar Baby, tantôt ruminant des pensées noires, comme dans I'm Talking. Et prenant la forme d'un intarissable monologue intérieur, elles évoquent respectivement la promenade d'un rêveur solitaire. Et s'intitulant Murder Must Fall en référence à Hamlet, ce texte diffère pourtant de ses prédécesseurs, parce qu'ici, Dylan s'efface derrière son sujet, s'accordant ainsi le rôle discret de commentateur. Et c'est un point de vue qui rappelle celui de Tempest, qui est encore un clin d'œil à Shakespeare, que l'on retrouve dans l'album du même nom. Et les comparaisons ne s'arrêtent pas là, parce que, en effet, les deux chansons portent sur un événement tragique du 20e siècle. Tempest évoque avec un humour candide le naufrage du Titanic. Murder Must Fall, quant à elle, aborde l'assassinat du président américain, John F. Kennedy. Et la pièce s'ouvre avec le son grave d'un violoncelle, donnant l'impression de jaillir des profondeurs de l'histoire. Un piano nous introduit sereinement à la voix de Bob Dylan. Son timbre est tout aussi calme, quasi stoïque. Il fredonne plus qu'il ne chante, mettant ainsi toute l'emphase sur un récit qui, à bien des égards, rappelle la mort de Virgile d'Herman Brock. Dylan ne se revendique pas, comme il l'a fait par le passé avec Hurricane, d'une quelconque vérité historique. Il cherche d'abord à imaginer les dernières pensées d'un JFK agonisant. Et l'homme politique entame alors un dialogue fictif avec ses agresseurs potentiels. Mais cet échange va bien au-delà d'éventuelles théories du complot. Parce qu'adresser la mort de l'homme politique en vient considérer son impact sur tout un imaginaire. Dès le second couplet, Dylan entame une fresque d'une portée dantesque. Tout en maintenant la focalisation sur Kennedy, il invoque différents noms de la culture populaire, allant des Beatles à Tina Turner. Et le poète décrit également l'incident en se référant à des chansons américaines, ne taisant jamais ce que chaque détail de l'histoire lui inspire. On remarque alors que Bob Dylan se moque de la contemporanéité ou d'un quelconque rapport entre la haute et la basse culture. Il appelle, par exemple, cette journée fatidique « A Nightmare on Elm Street » en hommage à la célèbre série de films d'horreur produite dans les années 80. Et à travers sa prose, Dylan affiche une conception godardienne du patrimoine culturel. Les œuvres, selon lui, communiquent entre elles sans tenir compte de la moindre chronologie. Elles évoluent au sein d'un plan d'immanence, dans une même constellation où passé, présent et futur se confondent. Le dernier acte de Murder Must Fall prend une dimension typiquement homérienne. Alors que John F. Kennedy pousse son dernier soupir, le narrateur supplie les dieux que l'on chante en son honneur. S'entame alors une longue énumération où il salue Buster Keaton, Marilyn Monroe, Oscar Peterson, Jelly Roll Mountain, Houdini et tant d'autres. Des noms qui, ayant marqué l'histoire du siècle dernier, siègent désormais dans l'immense musée que représente notre mémoire. Et dans la série de bande dessinée Sandman de Neil Gaiman, la mort y explique que le jour où elle aura enfin accompli sa tâche en expédiant tous les vivants de l'autre côté, elle n'aura plus qu'à faire un ultime ménage, puis de verrouiller la porte de notre monde. Et à sa manière, Bob Dylan suit son exemple, en citant, tel Saint-Pierre au jugement dernier, les noms de ses idoles, un geste que le C.S. Paconcellement a judicieusement défini comme la rédaction d'un générique de fin pour l'humanité. Et cette description me semblait tout particulièrement juste en ce matin du 27 mars 2020, alors que ma première écoute de Murder Must Fall se terminait. Je fixais ma rue avec l'impression qu'un chapitre se concluait. Grâce à Dylan, j'appréhendais pour la première fois cette épreuve, celle du confinement, avec placidité. Le monde d'après était sur le point de débuter. Je n'avais plus qu'à l'attendre.
Merci beaucoup, Simon.
T'was a dark day in Dallas, November 63. The day that would live on in infamy. President Kennedy was a rattling high, good day to be living and a good day to die. Be led to the slaughter like a sacrificial lamb. You say, wait a minute, boys, you know who I am? Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car.
Une chose que je trouve assez intéressante quand vous l'avez dit, c'est que vous aviez peu de surprises au moment de voir que la chanson durait 15 minutes. Puis moi aussi, cette chanson-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez ambivalent quant à l'œuvre de Dylan, puisqu'on a l'impression qu'il renoue avec cette tradition-là de clore ses albums par des très longues chansons. On peut penser même à Desolation Row, dans Highway 61 Revisited. Puis ça en fait une chanson bon, typiquement dylanesque. Mais tout à la fois, la voix de Dylan, elle a changé depuis. Il y a quelque chose d'autre que ça demande, cette voix-là, comme performance. Une performance qui est ici peut-être plus lecture que chant, mais demande quand même un registre différent, un travail avec la fragilité de la voix. Ce qui, pour moi, était tout à fait nouveau, peut-être parce que je connaissais de façon moins familière les albums plus récents de Dylan. Mais comment est-ce que vous situez cette chanson-là dans l'œuvre de Dylan, plus généralement? Est-ce que vous concevez qu'il y a un retour à une pratique qui s'approche à celle de ses débuts ou à une forme de nouvelle tradition d'expression vocale?
Je crois que cette chanson-là s'inscrit tout à fait dans le cheminement que Dylan entreprend depuis Time Out of Mind, où il va tenter de ne plus épater avec sa voix. On dirait qu'il a un peu assumé que ses talents de chanteur étaient, on ne se le cachera pas, un brin limité, et il va vraiment écrire des chansons, ces chansons fleuves que tu mentionnes, dans l'idée de les narrer, donc de trouver un chant vocal où toute l'importance est vraiment mise sur le texte. Il appelle à l'écoute, et c'est probablement sans surprise si ces chansons-là sont celles qu'il ne va pas faire forcément sur scène. Bon, d'abord parce qu'elles sont très longues, et probablement que se remémorer toutes les paroles lui demandera un certain effort, mais je pense parce qu'elles obligent une écoute très, très, très attentive, plus que, disons, ces chansons un peu plus, ces singles, les chansons qui vont être mises de l'avant dans la promotion des albums qu'on peut écouter un peu plus à la légère. C'est un Dylan très, très songeur, très réflexif, qui va transparaître dans ces pièces-là.
Puis, vous avez parlé un petit peu du texte qui accompagnait la chanson, puis qui la situait, ou en tout cas qui situait son enregistrement à un moment un peu indéterminé, peut-être quelques mois ou même quelques années précédant sa sortie. Puis, pourtant, on a peut-être des indices, en tout cas, il y a Fiona Apple, qui a participé comme pianiste à l'enregistrement, qui aurait dit que, du moins, sa partie d'enregistrement a été enregistrée à peine un mois avant la sortie de l'album. Mais comment on peut concevoir ce flou-là qui semble peut-être intentionnel de la part de Dylan quant au processus de création de Murder Most Foul?
Ben, je pense que Bob Dylan a toujours maintenu un flou sur, d'une part, sa propre autobiographie, mais aussi sur son processus créatif, alors que tantôt, il peut être très précis sur comment il écrit ses chansons. Si on lit Chronicles Volume 1, quand il aborde l'écriture de certaines de ses chansons, on découvre un Dylan qui est très technique dans la conception de ses vers. Mais je pense qu'il souhaite également maintenir ce mystère-là parce qu'il est conscient du pouvoir de séduction qu'il en découle. Donc, de garder un peu flou l'origine d'une chanson comme Murder Most Foul, qui est quand même en soi une pièce assez étonnante ou du moins intimidante à cause de sa durée, à cause de son sujet, à cause de tout ce qu'elle invoque. Je crois que ça fait en sorte que Dylan va continuer justement de maintenir son aura de personnage qui est constamment en fuite. Et on peut faire un parallèle avec d'autres œuvres de Bob Dylan qui sont également fuyantes. Je pense à son long métrage Rinaldo and Clara, qui occupe une place assez particulière dans l'ensemble de sa discographie, mais aussi dans le cas présent de sa filmographie, dans la mesure où c'est un film qu'on a vu, qu'ensuite il a disparu, qui est réapparu le temps de quelques scènes dans le dernier documentaire que Martin Scorsese lui a décrit. D'ailleurs, des images qui étaient restaurées, ce qui laisse penser, est-ce qu'une version complètement restaurée de Rinaldo and Clara existe? Est-ce qu'on serait sur le point de découvrir le film sur Blu-ray? Peut-être, on ne le sait pas. Mais je pense que Bob Dylan va toujours énormément jouer là-dessus parce qu'il sait reconnaître le pouvoir de la fiction sur notre rapport à l'œuvre. Et il suit de cette façon-là l'exemple d'Orson Welles, qui agissait à peu près de la même façon que lui quand il abordait justement certaines anecdotes de ses tournages. Elles sont absolument renversantes jusqu'à ce qu'on se tourne vers des individus qui étaient présents avec Welles sur le plateau qui vont dire « Non, c'est complètement faux ». Mais je pense que, pour citer un autre cinéaste, c'est que Bob Dylan a compris le fameux « Print the Legend » de John Ford. La légende est toujours plus intéressante que la réalité. Parce que dans les faits, quand est-ce que Murder Most Foul a été enregistré, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. C'est tout à fait fréquent d'apprendre que des artistes ont mis des pièces dans des tiroirs pour ensuite les ressortir. Mais je pense que Bob Dylan sait que, considérant la place que lui occupe dans notre imaginaire, il va s'amuser à justement le... titiller la fascination qu'on a avec les nombreux secrets qu'il va mettre en place.
Put your foot in the tank and step on the gas. Try to make it to the Trevor Underpass. Black face singer, white face clown. Better not show your faces after the sun goes down. I'm in the red light district like a cop on the beat. Living in a nightmare on Elm Street. When you're down on New Bellum, put your money in your shoe. Don't ask what your country can do for you.
J'ai l'impression peut-être même que Dylan se déplace toujours en funambule entre cette figure de quasi-prophète, où il arrive toujours au bon moment avec le bon mot pour décrire une situation sociale et l'impression finalement que ce qu'il dit est pratiquement un hasard, que ses éclaircissements viennent d'ailleurs puis il ne pourrait jamais les justifier. Ce qui est même présent dans son dernier album, William Murder Most Foul, avec une chanson qui s'appelle False Prophet, où il le dit, je pense que « I ain't no false prophet, I just said what I said ». Puis pour moi, Murder Most Foul est cette... disons, confusion au niveau de son origine alimente vraiment cette contradiction qui est toujours présente chez Dylan.
Absolument, d'autant plus que, je citais Pacombe Tiellement, on n'est pas les seuls à avoir établi un lien entre le premier confinement mondial à cause de la pandémie de la COVID-19 avec Murder Most Foul, alors que dans la chanson, il n'y a aucune référence à la COVID, mais la comparaison, d'abord à cause de la sortie de la chanson en plein durant cette période-là qui était précaire, elle s'imposait par elle-même parce que justement, comme je disais dans ma présentation, on était tous à un point où on faisait des bilans, en parlant du monde d'après, on invoquait le monde d'avant, et là arrive Bob Dylan avec justement un retour sur un événement qui va convoquer tout le 20e siècle. Et je pense que c'est toujours curieux parce que chaque fois Dylan en entrevue, généralement, quand il y a question du politique, quand il y a question de l'actualité, il prend ses distances, mais on est porté à aller trouver ses commentaires, ses impressions à travers ses chansons. Et c'est ce qu'on a continué de faire avec Murder Most Foul, qui est donc pas une chanson de rupture. Elle peut porter sur une rupture, mais dans les faits, elle est en continuité avec l'ensemble de son œuvre, mais aussi la lecture que l'on fait de son œuvre.
J'aimerais aussi peut-être qu'on parle de ce titre-là, Murder Most Foul, qui, bon, bien sûr, vient de Hamlet, qui apparaît dans Hamlet alors que le spectre du père lui apparaît pour désigner que le meurtre, finalement, le fratricide, était le pire des meurtres, le meurtre le plus ignoble, bon, qui apparaît directement en lien avec l'assassinat de JFK, mais aussi par une forme de fascination sur, je trouve, la spectralité qui apparaît dans le texte de cette chanson-là, sur comment l'événement peut comporter un sens à travers lequel, en filigrane, on va pouvoir voir toute l'histoire américaine, ou du moins l'histoire de la désunion américaine. Puis, une des choses que je trouvais assez fascinante à la toute fin, c'est, parce que vous l'avez dit, dans la deuxième partie, c'est une suite d'adresses et de demandes de chansons qui sont envoyées à Wolfman Jack, je pense.
Un tas de personnes.
Oui, puis il termine par « Play Murder Most Foul », comme si la boucle était bouclée, qu'à partir de maintenant, Murder Most Foul entrait dans un certain canon de la chanson américaine et qu'il y avait une espèce d'anneau de Moebius qui était créé.
Oui, absolument. Il y a énormément de choses à dire pour faire suite à ce que tu viens de mentionner. Je pense qu'une question qui se pose en écoutant la chanson, surtout dans ce qu'on pourrait appeler sa troisième partie, c'est quelle est la place de Dylan parmi tous les artistes qu'il évoque? Et eh bien, il répond lui-même à cette question-là. Il se revendique du Panthéon. Qu'il cite, mais bon, franchement, rendu là, il vient d'avoir gagné un prix Nobel, il est devenu Bob Dylan, donc on ne peut pas vraiment lui en vouloir de se positionner lui-même à travers lui, mais il le fait quand même assez humblement, parce qu'il ne fait que mentionner le titre de la chanson, un peu comme si c'était une façon de dire « d'autres personnes peuvent la reprendre, je n'ai pas de souci avec ça, parce que une chanson, c'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui va muter d'un artiste à un autre, une perspective qui est très, très folk, comme on le sait. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cette raison-là que Bob Dylan va citer plus de titres de chansons que d'artistes, justement parce qu'il veut évoquer une sorte de transmission culturelle qui va continuer. Donc, si Elvis n'est plus là pour chanter « Can't Help Falling In Love With You », c'est pas plus grave que ça parce que d'autres artistes peuvent prendre le relais. Maintenant, en montant ma présentation, j'ai appris que « Murder Most Foul », c'est aussi le titre d'un film noir. Et je me suis posé la question... Ah, mais à quoi est-ce que Dylan se réfère? Est-ce que c'est un clin d'œil à Shakespeare, comme il l'a souvent fait dans sa très, très longue carrière? Ou est-ce que c'est pas une référence à un petit film hollywoodien pas très connu? Personnellement, je crois que c'est les deux. Mmh, c'est typiquement le tissu intertextuel sur lequel Bob Dylan, un peu comme le faisait Jean-Luc Godard, aime travailler. Une référence en cache toujours une autre. Et il y a même des fans sur certains sites spécialisés qui ont fait une sorte de partition pour Murder Most Foul avec des hypertextes. On clique sur un lien et ça nous donne la référence. Ce à quoi Dylan potentiellement se réfère. Parfois, il y a des cas où on ne le sait pas, ce n'est pas encore clair, ou c'est encore en train de... L'enquête se poursuit, mais c'est fou de voir comment le réseau de références de Bob Dylan est immensément vaste, et je ne serais pas étonné que Dylan s'amuse en faisant ici une double référence, une à Shakespeare et une à un film noir, ce qui, justement... viendrait à briser le rapport basse culture, haute culture duquel Bob Dylan se moque complètement. Mais justement, là où il me semble qu'on ne peut pas non plus complètement nier la référence à Hamlet, c'est le rapport aux fantômes. Et l'œuvre de Bob Dylan, surtout celle des 20 dernières années, est habitée par les fantômes. Il renvoie au passé, mais tout le temps dans une optique de la hantise, dans la mesure où le présent est hanté par les fantômes du passé qui vont ressurgir et qui vont résister au passage du temps à travers la mémoire. Et ça rappelle un peu, pour faire justement une référence à la culture populaire, le film Coco de Disney, où les fantômes demeurent en vie dans le royaume des morts tant et aussi longtemps qu'on se souvient d'eux. Et je pense que Bob Dylan serait complètement en accord avec cette vision-là des choses, du moins sur le plan du patrimoine culturel.
Merci beaucoup, Simon. On va terminer sur cette référence un peu surprenante en ce qui a trait d'Hélène, comme il le serait bien content. Puis peut-être même, j'ajouterais une troisième filon pour brouiller les pistes. Je pense que Murder Most Fall était aussi le titre d'un pamphlet complotiste autour de l'assassinat de JFK. Mais encore une fois, c'est assez ambigu quant à la connaissance d'Hélène de ce pamphlet.
Ben, ça ferait énormément sens parce que la chanson flirte un peu avec les théories du complot. John F. Kennedy s'adresse à des agresseurs et quand on a un Oswald qui est très brièvement mentionné, on laisse sous-entendre qu'il lui-même n'est pas tout à fait au courant de ce qui s'est réellement passé cette journée-là. Donc, on découvre un visage complètement inattendu de Bob Dylan à travers Murder Most Fall.
Tout à fait. Merci, Simon.
Anything goes at Memphis in June. Play lonely at the top and lonely at the brave. Play it for Houdini spinning around his grave.
Play Jelly Roll Morton. Simon Harel, bonjour.
Bonjour.
On a pu explorer ensemble dans l'épisode précédent la question de l'enchantement qui était propre à la voix de Dylan. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on déplie peut-être ensemble la seconde partie du titre de notre balado, c'est-à-dire la notion de cruauté. Puis peut-être d'abord, il faudrait définir ce que c'est pour vous la cruauté avant de l'appliquer à Dylan. Est-ce que ce serait une relation de désir de faire souffrir ou peut-être davantage une posture qui refuse de dissimuler la violence, une forme de frontalité cruelle?
Oui, c'est un terme qui pose problème parce qu'il peut effectivement aller dans le sens, comme vous le mentionnez, d'une volonté pulsionnelle, serait particulièrement méchante, qui consiste à blesser l'autre. La cruauté, moi, je la vois de cette manière. À propos de Dylan, c'est ainsi que je vais tenter d'en parler avec vous. C'est un appétit de création-destruction dans le cours de sa très longue carrière, de faire en sorte qu'il y a sans cesse chez lui un désir, non pas de décevoir les attentes de son public, mais en quelque sorte de dérouter son public et de faire en sorte que de disques, CD, streaming en streaming, on a eu il y a deux jours l'arrivée pour certains à la maison de nos Philosophy of Modern Music. Alors peut-être que certains naïfs s'attendaient à une sorte de traité husserlien ou une mise en cause, parce que j'ai lu des trucs drôles quand même, qu'il allait répondre à Adorno à propos de la mise en cause de la culture populaire. Non, c'est pas ça du tout. C'est totalement illustré, c'est quelque chose qui est très, très, très beau à contempler. Et donc, pour revenir à cette cruauté, c'est non pas simplement de décevoir les attentes du public, mais c'est aussi, chez Dylan, me semble-t-il, très, très tôt dans sa carrière. Un appétit non pas de destruction, mais de mise en cause jusqu'au point de... C'est le terme qui me vient à l'esprit, de broyer en quelque sorte les influences musicales qu'il assimile très rapidement ou qu'il emprunte pour en faire tout autre chose. Ça se remarque plus particulièrement dans ses concerts. Ça se remarque dans les concerts que Simon nommait tout à l'heure, c'est-à-dire le Never Ending Tour, où on le voit reprendre ses chansons, casser le rythme même... de la mélodie, réécrire ses chansons, chanter différemment. Et donc, il y a là, chez lui, quelque chose d'intéressant. Dans la mesure où Dylan, en 65, est une célébrité mondiale. C'est quand même, il faut le dire, là, c'est un personnage qui n'a pas toujours fait le top 10, là, loin de là, mais en tout cas, c'est une célébrité mondiale qui va le demeurer, mais qui est devenue aujourd'hui une légende. Et la légende, justement, elle est un peu fantomatique, hein, c'est-à-dire où est le fantôme d'Elan? Il a 81 ans quand même, il fait ses concerts. Au début, je suis comme tous les fans, et on se demande ce qui se passe parce qu'il semble marcher avec difficulté vers l'avant-scène, donc on se dit, est-ce qu'il est malade? Donc il y a cet appétit de mise en cause du public quant à ses attentes de ce que devraient faire des lunes et un travail de création-destruction.
C'est comme une forme d'iconoclasme par rapport à sa propre figure.
Absolument. Et je crois même, vous avez tout à fait raison, je crois même que plutôt que de parler de cruauté, qui nous amène toujours sur le versant de la pathologie, ou qui va nous ramener invariablement, par exemple, à Artaud ou à des personnages semblables, j'emploierais le terme de défiguration, figuration, défiguration, ou encore, et votre remarque est tout à fait juste, cette composition iconoclaste qui consiste à toujours être justement à côté des attentes, c'est-à-dire, je reprends mon terme de tout à l'heure, à dérouter constamment les attentes du public.
Vous mentionnez aussi Artaud en tant que contre-exemple peut-être duquel se distancer, mais pourtant, j'ai réfléchi un peu dans les derniers jours, puis dans sa propre définition du théâtre de la cruauté, il y a une forme de préséance du corps, de l'affectif sur le sens, qui est quelque chose qu'on peut retrouver, je trouve, dans la production de Dylan. Je ne sais pas comment il est en concert.
Ben, c'est-à-dire que il y a, je pense à Reynaldo et Clara, il y a Marcel Carné. Je ne suis pas du tout un cinéphile comme mes collègues, mais chez Artaud, cette dimension de la cruauté, elle se joue de façon extrêmement virulente, puisque Artaud a comme projet de détruire les chefs-d'œuvre, de les brûler, non pas d'en faire un auto-da-fé, mais de mettre en valeur une forme de régénérescence de la culture, mais d'une culture qui ne serait plus pulsionnelle et sexuelle. Mais là, évidemment, ça c'est Artaud. Alors qu'il y a autre chose. Chez Dylan, il y a un souci de communication constant qui repose, encore une fois, sur la déception et en même temps la fascination, voire la vénération de son public. Puisque maintenant, c'est devenu, je dirais, même un tic de lecture, de se dire, ah ben, qu'est-ce qui va nous sortir, encore une fois, d'iconoclaste. Hein? Puis, je lisais les critiques de Variety hier, de Variety ou du Guardian, et c'est toujours la même chose dans le premier paragraphe. Ah, 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 voilà, il a fait Tarantula, il nous a bien eu, il nous a fait Chronicle 2002, ben, on n'a jamais eu le deuxième volet, bon, il nous a bien eu. Et puis de toute façon, ce sont des chroniques, la dimension autobiographique, elle est totalement non linéaire. Et puis là, il nous trompe encore. Donc, comme si maintenant, et c'est intéressant, était assimilé le fait que Dylan était justement un trickster et que dans la lecture, même canonique de son œuvre, on se dit, ben, il va encore nous jouer un tour. Et effectivement, il n'arrête pas de jouer des tours. Hein. J'en parlais avec Simon tout à l'heure. Toute cette série à propos de la musique du Tin Pan Alley, Sinatra, ces deux albums de blues au début des années 90, dont on dit qu'il précède en quelque sorte sa renaissance. Donc, Dylan ne cesse de renaître, de renaître, de renaître. Et en fait, je veux dire, et en même temps, bon, ça va peut-être faire plaisir à notre ami Mathieu, il y a une machine dylanienne qui est presque une machine deleuzienne. C'est-à-dire que c'est une machine, finalement, à défaire et à refaire, et puis qui fonctionne par arborescence. La question des sources dont Simon parlait tout à l'heure, à savoir combien de sources Dylan maîtrise-t-il, quelle est sa culture encyclopédique, ça revient constamment à propos de la musique populaire, mais ça revient aussi à propos de la musique, je dirais, qui se veut plus savante. Donc, il y a cette dimension constante qui consiste à jouer avec les attentes en mettant en relief qu'il y a, je pense, et là, ça pourrait non pas désavouer l'expression de cruauté, mais il y a aussi un appétit de jeu, mais dans tous les sens du terme. C'est pas pour rien qu'il donne à peu près 100 concerts par année depuis la fin des années 80. Il y a l'appétit de jouer. Il y a un très beau passage, d'ailleurs, dans le Philosophy of Modern Music. Il dit, dans le fond, il dit, c'est extraordinaire aller sur scène parce que, bon, vous n'avez pas à sortir les poubelles, vous n'avez pas à avoir un voisin qui vous regarde parce que vous considère que dans votre cabanon ultra West Hollywood, je veux dire, vos déchets puent et puis la direction du vent fait que ça se rend chez le voisin d'à côté. Il dit, vous n'avez pas d'autre chose à faire que de chanter. Et finalement, en chantant, vous êtes tout à fait dévoué aux autres qui sont là. Et si vous avez des problèmes, vous les gardez pour vous-même. Donc, il dit, dans le fond, il dit, c'est le monde idéal. Donc, chez Deslunes, le fait de jouer, couplé au sens de l'humour, qui est extraordinaire chez lui, je crois que ça vient non pas atténuer cette définition de la cruauté, mais de jouer constamment au bord de l'abîme, d'une certaine manière, sans tomber. Non, je reprends l'image du fil de fériste dont vous parliez tout à l'heure, du funambule, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas. Ou si on tombe, on est rappelé d'une certaine manière toujours par la musique de Deslunes elle-même, même dans les moments les plus sombres. Et en ce sens-là, vous avez tout à fait raison à propos de la COVID. Je veux dire, il devient actuel par son inactualité. C'est aussi un homme de médias extraordinaire. C'est un homme de médias extraordinaire qui s'entoure d'une équipe extraordinaire. Parce qu'il réussit, comme on dit dans le vocabulaire, entre guillemets, à rester pertinent, et avec Jeff Rosen et toute son équipe, et puis à ne jamais être là et être constamment actuel dans son inactualité. Et de surtout pas s'empêtrer dans le politique, manifestaire. Ça, je crois que c'est un autre élément qui est important chez lui.
I'm looking for a place that will collect, clip, bath, and return my dog. It's KN17727, cigarettes and tobacco. Animals and birds bought or sold on commission. I want a dog that's going to collect and clean my bath, return my cigarette, and give tobacco to my animals and give my birds a commission. I'm looking for somebody to sell my dog, collect my clip, buy my animal, and straighten out my bird. I'm looking for a place to bathe my bird, buy my dog, collect my clip, sell me cigarettes, and commission my bath. I'm looking for a place that's going to collect my commission, sell my dog, burn my bird, and sell me to the cigarette. I'm going to bird my buy, collect my will, and bathe my commission. I'm looking for a place that's going to animal my soul, knit my return, bathe my foot, and collect my dog. Commission me to sell my animal to the bird to clip, and buy my bath, and return me back to the cigarette.
Vous parlez d'un passage où il parle d'être dévoué. Puis j'ai l'impression que cette cruauté-là, elle ne peut pas nécessairement être vue comme une forme d'opposition, mais une forme de cruauté complice qui permet, encore une fois, de briser la forme de figure de chanteur vers lequel tous les regards se rivent pour créer une forme de dévouement complice face à un public, de dévouement réciproque. Encore une fois, un retournement des rôles. Puis on parlait dans le dernier épisode du documentaire de Penny Baker où Deslunes retourne les rôles avec l'intervieweur. Mais là, il y a encore quelque chose qui se joue comme ça au moment de l'écoute. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui peut être présent même dans l'enregistrement studio de ces albums?
J'aimerais bien y être. Mais bon, je pense que ce que l'on en sait, à tout le moins, c'est que Deslunes est un artisan qui a un rapport compliqué avec la technologie, qu'il maîtrise par ailleurs. Et que ce qui l'intéresse, c'est encore une fois, non pas la chanson parfaite, mais la chanson qui témoigne d'une forme d'authenticité. Bon, ben ça rejoint le folk. Mais en même temps, on sait aussi, parce que Deslunes le fait constamment, « Blown in the Wind », bon, la mélodie, c'est « No More Auction Block ». Donc, « House of the Rising Sun », c'est piqué à Devin Ronk. Je prends deux exemples parmi des centaines. Je veux dire, donc, il est dans un registre qui consiste à retravailler constamment la tradition. Il est dans un registre, je reviens sur cette question de l'acte de chanter. C'est-à-dire qu'il fait un travail extraordinaire d'éducation musicale et culturelle parce que en faisant jouer ce rapport à la musique, en recomposant, en retravaillant, il montre d'une certaine manière dans une tradition qui est celle du folk notamment, qu'on est dans un registre qui est celui du commun, c'est-à-dire d'une langue partagée. Et ça, je trouve que c'est particulièrement exemplaire de ce point de vue. C'est très riche et c'est aussi une forme d'humilité, hein, comme vous le mentionniez à propos de la fin de Murder Most Fall. C'est-à-dire, il ne se dit pas faire partie du patrimoine mondial de l'humanité, mais il glisse un élément sur une présence incontestable.
Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Simon. On va se laisser sur ces paroles de Dylan. Cruel enchanteur, sirène, trickster, funambule, tout à la fois. Merci beaucoup, Simon.
Merci à vous.